Le débat du jour. Loïc Bussière.
Vu de France, où le dernier monarque a fini la tête dans un panier, la chose a quelque chose d'incongru au mieux. C'est une curiosité, l'union royale d'un membre du trône britannique et d'une actrice américaine pas encore anoblie. Et pourtant, ce Royal Wedding affole les gazettes, bien au-delà de la presse people. Et Réfi ne manquera d'ailleurs pas de s'en faire l'écho. Le prince Harry et Meghan Markle se diront oui samedi devant les télévisions du monde entier, avec peut-être plus encore de téléspectateurs que lors du précédent rendez-vous du genre à Londres. Ils étaient près de 3 milliards devant leur écran il y a 7 ans pour William et Kate. Samedi, c'est à Windsor qu'aura lieu la noce, un événement, on vous dit, mais presque d'un autre temps, parce qu'au-delà de sa médiatisation, c'est aussi son utilité qui pose question, celle des têtes couronnées dans un monde 2.0 qui ne ferait peut-être plus qu'à des reines et des rois. Archaïque, la monarchie, anachronique, affirment même certains. C'est ce dont on débat ce soir avec nos invités. Nos invités qui sont Jean Descartes. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Journaliste et écrivain, vous êtes spécialiste des grandes dynasties d'Europe, auteur notamment de la saga des Windsor aux éditions Perrin. En face de vous, Frédéric Rouvillois, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes également écrivain, professeur agrégé de droit public à l'Université Paris-Descartes et spécialiste du droit de l'État et d'histoire politique. Moi, si je me trompe, on vous doit, entre autres, également être ou ne pas être républicain, édité aux éditions du CERF. Messieurs, quand vous entendez monarchie accolée au mot anachronique, est-ce que ça vous fait bondir, monsieur Descartes ?
Oui, je trouve ça prétentieux et stupide, parce que ça voudrait dire que 10 pays d'Europe, je ne parle pas de l'Union européenne, sont des pays anachroniques. Or, ils ont des leçons d'histoire qu'ils peuvent donner à la France. Par exemple, le Danemark, qui est la plus ancienne monarchie européenne. Je ne parle pas de la famille régnante, je parle du régime politique. Et ce sont des pays qui fonctionnent bien, d'une façon démocratique. Dans le cas de la monarchie britannique, moi j'y vois quelque chose de tout à fait évident qu'avait remarqué, me semble-t-il, le général de Gaulle lorsqu'il voyait l'enthousiasme des foules pour les visites princières ou royales, notamment britanniques, en France après la guerre, en disant « il manque un roi à la République ». Et je pense que, si vous voulez, on ne pense pas assez, nous, à ce que ça peut être. C'est à la fois un individu et une institution. L'institution à 1000 ans. Elle est ancrée dans l'histoire depuis Guillaume le Conquérant, à travers 9 dynasties. Et l'individu est un fédérateur des aspirations populaires, nationales. Je me permets de vous dire que je pense qu'il y a chez certains Français une nostalgie, mais éventuellement un regret. Et quand vous dites le dernier roi... Vous parlez de Louis XVI, mais il y a eu visiblement une tentative de réparer la rupture du lien social et national par Napoléon. Il y a eu la Restauration, qui n'a pas été particulièrement réussie, et il y a eu le Second Empire. Et je pense que la monarchie donne un visage à l'avenir. Les révolutions, c'est fait pour s'en débarrasser, mais ce qui est intéressant dans le cas britannique, c'est que c'est une adaptation permanente et que la reine n'a cessé de bousculer les traditions pour les faire vivre.
Alors, on va donner la parole à Frédéric Rouvillois. Vous partagez cette analyse, cette une forme de nostalgie, justement, des...
Alors, pour reprendre votre question, au départ, vous nous demandiez effectivement ce quel sentiment nous inspirait l'idée
d'une monarchie
anachronique. Moi, ça me fait pas hurler, mais ça fait plutôt sourire. Parce qu'effectivement, ceux qui affirment cela, manifestement, ne connaissent pas ni la politique ni l'histoire. Vous savez qu'à l'époque de Louis XIV, on considérait que la démocratie était une forme ancienne qui plus jamais ne reviendrait, puisque c'était celle qui existait sous l'Antiquité. Et par ailleurs, Jean Descartes évoquait très bien effectivement la série de tentatives de restauration successive de la monarchie par Napoléon d'abord, par Louis XVIII ensuite, par Napoléon III ensuite. Mais moi, en tant que professeur de droit constitutionnel, je suis inévitablement amené à me poser la question de ce qui s'est passé il y a exactement 60 ans, en 1958, lorsque le général de Gaulle rétablit une sorte de monarchie, qu'il appelle lui-même une monarchie républicaine. Il utilise le mot très, très fréquemment. Et vous savez que le soir de son arrivée, le soir où il revient au pouvoir, on est le 29 mai 58, il écrit dans son carnet, dans ses mémoires, il le publiera, il écrit la chose suivante, je vais avoir la possibilité enfin de rétablir la stabilité et l'unité qui manquent à la France depuis 1789. Alors, si ça, c'est pas une sorte de monarchie, qu'est-ce que c'est ?
J'en écarte justement, vous voyez dans les démocraties, comme dans les systèmes en tout cas républicains comme celui de la France, une forme de volonté de résurgence justement de ce système monarchique ?
Oui, mais je le trouve très malmené actuellement. L'ancien étudiant en droit que je suis regrette, j'ose le dire, le quinquennat qui me paraît vraiment raccourcir le temps d'installation du monarque, entre guillemets, qui fait qu'on est toujours en campagne et que c'est à peine fait qu'on repense à la suite. Et je trouve ça extrêmement fatigant. Le septennat était pour moi un minimum parce qu'on peut passer à autre chose, sinon on est en campagne. Alors, il y a des clichés qui sont stupides chez certains Français de penser par exemple que la monarchie britannique, en l'occurrence, coûte très cher. Non, elle coûte 3 fois moins cher que la République française dans son fonctionnement. Elle est l'exemple du tissu du lien social depuis des millénaires. Et évidemment, en l'occurrence, nous avons avec la reine qui, depuis 65 ans pour son avènement, 66 ans pour son couronnement, règne et a vu passer 14 premiers ministres et toutes les fluctuations et tous les événements fantastiques de notre époque, de ce qu'elle avait vécu, de ce qu'elle a connu à partir de la guerre, quand son père lui a donné accès aux documents secrets. Et je trouve que c'est un personnage absolument unique et irremplaçable. Enfin, le système monarchique plaît visiblement aux Britanniques, et on est beaucoup plus exigeant en monarchie sur la famille, la première famille, la famille royale, et Dieu sait si la presse britannique ne se gêne pas. Nos critiques républicaines sont des billevesées à côté. Vraiment, ça va très très loin, il faut que les gens se tiennent bien.
Alors vous parlez de clichés à l'endroit de la monarchie, clichés du coup, il en est un autre, je me tourne vers vous, Frédéric Rouvillois, le cliché de l'utilité de la monarchie dans nos sociétés modernes. À quoi sert un roi aujourd'hui, en 2018, ou une reine ?
L'utilité, c'est que dans un monde où on n'a plus de repères, où les gens ne savent plus où ils sont, où la question fondamentale, c'est la question de l'identité, c'est la question de savoir au fond qui on est, d'où on vient, et par conséquent, où on veut aller. L'existence, comme c'est le cas en Angleterre, non seulement d'un régime politique, mais d'une famille royale, qui est à la fois comme toutes les autres familles, mais qui est également différente parce que effectivement elle est à l'origine finalement de la du lien social. C'est quelque chose de tout à fait essentiel, hein. Et ce rapport presque amoureux, si vous voulez, des citoyens d'une monarchie pour leur famille royale, pour leur reine, pour leur roi, pour les petits enfants qui naissent. Regardez ce qui s'est passé il y a quelques années pour le fameux baby George, et ce qui se passe à nouveau pour le baby Louis maintenant. C'est quand même des choses qui sont tout à fait étonnantes et fondamentalement utiles, si vous voulez, hein. Voilà, c'est l'utilité première d'une royauté, je dirais, à notre époque, au XXIe siècle, c'est de fournir des repères qui manquent à une société déboussolée.
Jean Descartes, vous l'irez à dire.
Oui, absolument, c'est la permanence qui rassure. Ce qui fait que lorsque un souverain qui a régné longtemps, j'ai très bien connu par exemple le prince Rainier III de Monaco, qui avait relevé Monaco après la guerre et qui l'a incarné, les gens étaient désespérés à son décès. Je touche du bois, mais je veux dire, à la disparition de la reine Elisabeth II, ce sera un séisme. Le monde sans la reine, qu'on voit, qui est la femme la plus photographiée du monde et qui est devenue tout de suite la reine de l'image en acceptant et en demandant que son couronnement soit télévisé en 1953 contre l'avis de Churchill, c'est extraordinaire. Alors, les peuples ont besoin d'admirer et ont besoin de se sentir représentés. Et nous avons eu, je ne citerai personne, mais récemment, quand même quelques président de la République qui n'était pas à la hauteur de l'idée qu'on se fait de la représentation nationale.
Alors, puisque justement, vous viez cette métaphore du président de la République française, est-ce que vous diriez qu'un système tel, le système français, c'est celui d'un homme qui représente l'État, alors qu'une monarchie représente
la nation.
La nation, les valeurs, c'est cela?
La nation est plus permanente que l'État, bien que l'État soit obligatoirement, je dirais, constant, mais c'est ça que je pense que voulait dire le général de Gaulle.
Frédéric Obiwa.
Ce qui est très important, évidemment, je suis parfaitement d'accord avec Jean Descartes. Mais ce qui est très important, c'est la nation, enfin c'est la personne qui incarne et la famille. Et c'est le fameux cri que l'on poussait sous l'ancien régime au décès du roi. Le roi est mort, vive le roi. Autrement dit, il y a cet élément de continuité qui est évidemment une chose absolument essentielle. La monarchie, c'est ce qui permet, c'est ce qui permettait sous l'Ancien Régime, c'est ce qui permet en Angleterre, au fond, d'ancrer la nation et les personnes dans une histoire longue, dans une continuité, avec le sentiment qu'ils ne sont eux-mêmes que les éléments d'une espèce de grande chaîne de l'être qui remonte à leurs ancêtres et qu'ils vont transmettre à leurs enfants.
Fait d'avoir, par exemple, en France, un président dont certains... répète à l'envi qu'il est jupitérien, c'est une façon justement de tenter de réincarner cette stature-là.
Alors écoutez, nous Dans avons eu avant l'actuel président, nous avons eu quelqu'un qui était élu par erreur, visiblement, qui n'était pas heureux dans sa fonction et qui ne l'assumait pas, ça se voyait. Bon, nous avons
depuis... libre de vos propos.
Oui, mais bien entendu. Nous avons depuis quelqu'un qui a une autre dimension et qui, et ça m'a plu, s'est tout de suite inscrit dans l'histoire malgré quelques dérapages. Je veux dire que l'intronisation devant le Louvre, c'est le Louvre des rois, c'est le Louvre de la Révolution, c'est le Louvre de l'Empire, c'est le Louvre de la République, c'est le Louvre de la France. Ensuite, la réception, et j'y ai assisté, du président Poutine à Versailles, c'était l'histoire et non la politique. La visite de Pierre le Grand, et troisièmement, la réception du président Trump pour rappeler l'engagement américain en 1917, je trouvais qu'on s'inscrivait à nouveau... La France et les Français entraient à nouveau dans l'histoire.
Frédéric Rouillois.
Ce qui était assez amusant, effectivement, c'est que notre président jupitérien, plusieurs mois avant d'être élu, je crois que c'était en 2015, avait donné au magazine Le 1 une interview qui avait été évidemment pas mal commentée dans certains milieux, où il expliquait de manière assez gaullienne et franchement monarchiste que ce qui manquait à la France, effectivement, depuis la Révolution, c'est un roi, finalement, et que la France s'est jamais véritablement remise de ce meurtre rituel commis sur l'image du père, qui a été la mort du roi le 21 janvier 1793.
Oui, car si vous voulez, pour la première fois après les roulements de tambour, on ne crie pas « le roi est mort, vive le roi », c'est une rupture absolument tragique au sens théâtral du terme, après des siècles, quels que soient les événements que l'on ait connus, parce que là c'était volontaire, c'était une rupture de régime, une rupture de famille, je dirais, une rupture d'ascendance et de destinée et de futur. Donc c'est un traumatisme, et le président Mitterrand, qui me faisait l'honneur de lire mes écrits, m'avait confié confidentiellement qu'il pensait que les drames de la France remontaient à la mort de Louis XVI.
Frédéric Rouvillois, je vous demande justement pour le coup une réaction.
Écoutez, moi ça me rappelle autre chose, c'est un film d'Éric Rohmer qui s'appelle L'Anglaise et le Duc, qui est un film absolument merveilleux.
Et il y a une scène. Chacun ses références, Rohmer pour voilà, vous, Mitterrand.
L'héroïne du film, donc une Anglaise témoin de la Révolution, assiste à ce qui se passe le 21 janvier à l'extérieur de Paris, et on a l'impression que c'est l'hiver qui commence. Oui. Voilà.
C'était très joli comme image. Non, mais je pense que nous avons dans notre inconscient, alors je ne parle pas des gens acharnés à tout détruire et qui répètent ce que je trouve un non-sens, que la France est née en 1789, je trouve ça insupportable, parce qu'à ce moment-là, Rabelais et Pascal n'ont pas existé, et c'est absolument stupide.
Ça ferait de la place dans les bibliothèques en même temps.
Oui, non, mais enfin, je veux dire, c'est quand même effrayant. Voyez-vous, les bolcheviks n'ont jamais dit que la Russie commençait en 1917. Ils ont dit c'est un autre régime, une autre étape. C'est une nuance.
Qu'est-ce que vous répondez, justement, puisqu'on est dans certains clichés que vous dénoncez, à ceux qui voient dans la monarchie telle qu'elle est mise en scène, notamment dans les médias, comme une forme d'avatar de la société du spectacle, du show business?
Oui, mais alors, à ce moment-là, personne n'y échappe. Je veux dire, le monde a évolué, beaucoup de choses ont changé. Je prends un exemple, la reine Elisabeth II a décoré les Beatles, des chevaliers de l'Empire britannique d'un nouveau genre, parce qu'elle a accompagné une révolution qui était celle du Swinging London, celle de la mini-jupe et du collant, qui était bien plus considérable comme révolution que des lois permissives. La monarchie vit avec son temps. Si elle ne vit pas avec son temps, elle est condamnée, c'est évident.
Frédéric Rouvillois, la couronne est soluble dans la culture de la mini-jupe?
Non, elle n'est pas soluble, justement.
Précisément, elle est compatible.
Elle assume la culture de la mini-jupe, de même qu'ensuite elle assume la culture de la robe Issey Miyake ou je ne sais quoi. Mais voilà, elle est pas soluble, elle est justement une permanence. C'est tout son intérêt, si vous voulez. Le principal intérêt de la monarchie, c'est justement de s'inscrire dans le temps long et d'être au-delà de ces changements, de ces modes, de ces revirements, de ces caprices de l'opinion, etc.
Et pour aller dans votre sens, justement, puisque vous parlez de l'opinion, l'opinion britannique, elle est massivement en faveur de sa monarchie.
Ah oui, oui, oui.
7 Britanniques sur 10, à peu près.
Oui, oui, absolument, parce que elle est très heureuse de ses fêtes de famille, ça rapproche le peuple, elle a vécu l'Annus Horribilis comme tout le monde, 92. Il faut voir le drame ressenti par l'opinion, l'incendie du château de Windsor, car c'est la plus grande forteresse du monde qui soit toujours habitée, qui rassemble 1000 ans d'histoire. C'est un endroit que je connais bien. Donc les gens étaient consternés. La reine a dit qu'elle paierait de sa poche la restauration de ce château qui lui est très cher, qui était très cher à Victoria, où Elisabeth a passé une partie de son enfance, a vécu pendant la guerre. Bon, il y a des symboles, si vous voulez, auxquels en monarchie, les gens sont extrêmement attachés dans des pays que nous connaissons moins, comme la Norvège, le Danemark, tout ça, où il y a des héroïsmes extraordinaires, mais les gens se tiennent et sont très attachés au symbole du pouvoir, avec des variations constitutionnelles. Le roi de Suède n'a pratiquement aucun pouvoir, la reine de Danemark en a beaucoup plus, c'est une femme aussi remarquable, qui règne depuis 1972, et qui tient bien l'état de son pays.
Frédéric Rouvillois, pour
donner la parole. Oui, ce qui est intéressant également, c'est que beaucoup de ces pays-là sont devenus ou redevenus des monarchies. C'est le cas de l'Espagne, hein, qui a été une république pendant un certain temps, bref, mais tout de même, un temps plein de bruit et de fureur d'ailleurs. C'est le cas évidemment de l'Angleterre. À l'époque, au XVIIe siècle, avec la terrible République de Cromwell, c'était le cas. Voilà, la monarchie, c'est pas simplement quelque chose qui subsiste dans des pays qui n'ont pas connu la merveille de la République. Ce sont des pays qui sont revenus à la monarchie.
Jean Descartes, vous me faites signe, je vous donne la parole.
Je voudrais signaler une curiosité que les Français ne réalisent pas toujours, c'est que en Suède, la monarchie qui est sur le trône, sa famille est d'origine française, ce sont les Bernadottes depuis 200 ans. Alors c'est un comble, parce que toutes les monarchies, tous les royaumes créés, torturés, malmenés par Napoléon, tous disparu. Et celui qui a été relevé par un de ses maréchaux qui l'a trahi, il était très populaire, Bernadotte, le Gascon, le Béarnais, qui avait sur sa poitrine mort au tyran, a été élu roi. Le Suède, c'est un comble pour Napoléon, et c'est un pays qui va fêter le bicentenaire de cette dynastie très prochainement.
Rapidement, et ça sera ma dernière question, puisque vous évoquiez l'opinion massivement en faveur de sa monarchie, les quelques minoritaires justement qui réclament son abandon, ce sont qui? Des illuminés? Des gens qui vont contre le sens de l'histoire?
Pour les Britanniques, il y a suffisamment d'excentriques, comme on le sait, pour comprendre bien ce dont il s'agit. Ils s'expriment très très bien, il n'y a qu'à se promener dans Hyde Park, il y a toutes les oppositions possibles, et il y a les oppositions parlementaires. C'est tout. Regardez la révolte des Lords actuellement, la Chambre des Lords qui ne veulent pas entendre parler du Brexit. Voilà, en face, la reine a dit simplement « je suis toujours là ». Non, c'est très amusant, c'est très vivant comme démocratie.
Frédéric Rouvillois, ce sont des punks, les anti-rois?
Oui, en quelque sorte. En tout cas, ce que tout cela nous montre, c'est que l'histoire est toujours pleine de surprises et que voilà, il faut la regarder attentivement pour s'en rendre compte.
Et parce que l'on regardera, en tout cas, c'est le Royal Wedding. C'est samedi, le mariage donc du prince Harry et de Meghan Markle. Merci Jean Descartes, journaliste et écrivain. Je me tourne vers vous d'ailleurs. Merci Frédéric Rouvillois d'être venu sur le plateau d'RFI. Merci également à Valentin Vaner à la réalisation, à Florence Ponce pour son aide dans la préparation de ce débat, le débat du jour qui revient lundi. Ça sera avec Romain Ozoui. On parlera réforme du rail. Tout de suite, c'est le retour de l'actualité internationale sur la Radio du Monde.